Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Cette édition de Basilius Bessler. L'herbier Hortus aestatensis, préparé par Klaus Walter Lidger, s'inscrit dans la tradition des grands livres botaniques de la première modernité. Elle reprend et contextualise le célèbre Hortus aestatensis, publié en 1613 à partir du jardin princier d'Eichstätt, l'un des ensembles botaniques les plus ambitieux de son époque. L'ouvrage n'est pas seulement un recueil d'images de plantes, c'est un document historique sur la rencontre entre science, représentation visuelle et prestige princier. Bessler y présente, avec une précision remarquable, une vaste diversité de végétaux organisés selon une logique proche des saisons et des floraisons. L'édition de Lidger aide le lecteur contemporain à comprendre la portée de ce monument éditorial, la méthode de travail collective qui l'a rendu possible, ainsi que la place qu'il occupe dans l'histoire de la botanique, de l'illustration scientifique et de l'art du livre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un herbier de cour qui documente le jardin d'Eichstätt. Le cœur du livre est le Hortus aestatensis, c'est-à-dire le catalogue illustré du jardin voulu par le prince-évêque Johann Conrad von Gemmingen. Ce jardin n'était pas un simple espace décoratif, il servait à montrer l'étendue du savoir botanique, la richesse des collections végétales et la capacité d'un pouvoir princier à maîtriser et ordonner la nature. Lidger replace cet ensemble dans son contexte historique, ce qui permet de comprendre que l'ouvrage répond à un double objectif. D'un côté, il conserve la mémoire d'un jardin disparu. De l'autre, il transforme ce jardin en objet de savoir transmissible. Le livre fait ainsi entrer un lieu vivant dans la culture du livre imprimé. Cette conversion du jardin en codex est essentielle, car elle explique pourquoi l'œuvre a dépassé le cadre local d'Eichstätt pour devenir une référence européenne dans l'histoire des plantes et des jardins. Deuxièmement, une révolution de l'illustration botanique par la précision et l'échelle, l'une des grandes forces du Hortus aestatensis est la qualité de ses planches, qui montrent les plantes presque à taille réelle et avec un niveau de détail exceptionnel. Par rapport aux herbales plus anciens, souvent utilitaires et schématiques, Bessler propose une image qui sert à la fois l'identification scientifique et l'appréciation esthétique. Le lecteur voit non seulement la forme générale d'une plante, mais aussi la structure des feuilles, des fleurs, des fruits, et parfois des tiges avec une grande fidélité. Cette précision n'est pas un simple effet visuel, elle marque une étape importante dans l'histoire de la botanique, car elle rend l'observation plus rigoureuse et plus comparable. Lidger met en valeur ce changement de paradigme où l'image devient un instrument de connaissance à part entière. Le livre montre ainsi comment la représentation des plantes passe d'un usage surtout médicinal à une vision plus encyclopédique et plus attentive à la singularité de chaque espèce. Troisièmement, un travail collectif prolongé qui révèle l'échelle du projet, le Hortus aestatensis n'est pas l'œuvre d'un seul homme travaillant isolément, mais le résultat d'un long processus de collaboration. Bessler a dirigé une équipe de dessinateurs, de graveurs et d'artisans pendant de nombreuses années, ce qui souligne l'ampleur technique et matérielle du projet. Cette dimension collective est importante, car elle montre que la qualité finale du livre dépend autant de l'organisation du travail que du talent individuel. Lidger permet de saisir cette chaîne de production collecte des spécimens, dessins sur le motif, gravures sur cuivre, impressions, puis parfois mise en couleur manuelle. Chaque étape ajoutait une exigence de précision et de coût. Le livre devient alors un témoignage sur la fabrication des ouvrages de luxe au XVIIe siècle. Il illustre aussi le lien entre savoir savant et économie du livre, puisque l'édition luxueuse, très onéreuse, visait un public restreint de collectionneurs, de mécènes et de spécialistes. Quatrièmement, une organisation des plantes qui anticipe l'esprit de la classification. Les plantes du Hortus aestatensis sont regroupées selon une logique qui tient souvent compte des saisons et des périodes de floraison. Cette organisation n'appartient pas encore à la classification linnéenne moderne, mais elle manifeste déjà une volonté de mettre de l'ordre dans le vivant. Le lecteur comprend ainsi que le livre n'est pas une simple suite d'images décoratives, il construit une vision structurée du monde végétal. Cette logique facilite la consultation pratique, notamment pour l'observation des floraisons, tout en suggérant des relations entre les plantes. Lidger aide à lire cette méthode comme une étape intermédiaire entre le herbier médiéval et les systèmes botaniques plus tardifs. Le livre se situe donc à un moment charnière de l'histoire des sciences naturelles. Il conserve des catégories anciennes, mais il prépare aussi une approche plus systématique, plus descriptive et plus attentive à la diversité des espèces cultivées, y compris les plantes exotiques introduites en Europe. En dernier lieu, une édition contemporaine qui éclaire le sens historique et culturel de l'œuvre. L'intérêt de l'édition de Klaus Walter Lidger est de ne pas se limiter à la reproduction d'un fac-similé. Son apport principal réside dans le cadrage historique, la mise en perspective botanique et les explications culturelles qui rendent l'ouvrage lisible pour un public moderne. Le lecteur n'a pas seulement accès à une somme de planches remarquables. Il dispose aussi d'éléments pour comprendre le contexte de création, la fonction de représentation du jardin et la valeur patrimoniale de l'ensemble. Cela en fait un livre utile aux historiens de l'art, aux botanistes, aux conservateurs, aux bibliophiles et aux amateurs de livres rares. Sa singularité tient à cette combinaison, il est à la fois un objet de collection, une source historique et un outil de lecture critique, dans un domaine où beaucoup d'éditions se contentent de reproduire l'original. Celle-ci se distingue par sa capacité à restituer le sens profond de l'œuvre plutôt que sa seule beauté visuelle. En conclusion, ce livre doit être lu par les spécialistes de botanique historique, les historiens de l'art, les chercheurs en culture matérielle, les passionnés de jardin et les bibliophiles attirés par les grands livres illustrés. Il offre un bénéfice double d'une part, il donne accès à un chef-d'œuvre de l'illustration végétale. D'autre part, il fournit les clés pour comprendre pourquoi ce chef-d'œuvre compte dans l'histoire des sciences, du livre et des représentations de la nature. Pour un lecteur non spécialiste, l'ouvrage permet de découvrir comment un jardin princier du début du XVIIe siècle a pu devenir une archive visuelle de la diversité végétale. Pour un lecteur expert, il constitue une source de premier ordre sur les pratiques de collecte, de classement et de gravure. Ce qui le distingue d'autres ouvrages botaniques, c'est l'équilibre rare entre fidélité aux facsimilés, commentaires érudits et mise en contexte historique. Là où beaucoup de livres sur les plantes insistent soit sur l'esthétique, soit sur la science, celui-ci montre comment les deux dimensions étaient déjà intimement liées dans l'Europe baroque. Si vous souhaitez soutenir Klaus Walter Lidger, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!